libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc n'hésitez pas à utiliser votre navigateur web préféré. Rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et vous cliquez sur chat. Nous sommes mardi 12 mars 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être un podcast ou une rediffusion. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, son délégué général. En régie, mon collègue Étienne Gonu est présent. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Et je vous présenterai les invités suivants rapidement. Donc le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez trouver d'ores et déjà une page consacrée à l'émission du jour avec les références que nous allons citer dans l'émission, car nous préparons les émissions. Et évidemment, la page sera mise à jour après l'émission avec les références qu'on aura citées au cours de l'émission. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors maintenant, le programme de l'émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par une chronique de Jean-Christophe Becquet, président de l'April, intitulé « Pépites libres ». Donc normalement, Jean-Christophe est avec nous au téléphone. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour Fred, bonjour à tous.
On se retrouve dans quelques secondes. D'ici une quinzaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur le projet de règlement terroriste censure sécuritaire avec nos deux invités de la Quadrature du Net, donc Arthur Messot. Bonjour Arthur.
Salut Fred.
Et Martin Drago. Bonjour Martin.
Salut.
Et en fin d'émission, nous aurons une interview de présentation de l'initiative Foun the Code avec Louis-David Benyayer, initiative qui se déroule à Paris dans quelques jours. Alors tout de suite, place au premier sujet. Donc nous allons commencer par une intervention donc, de Jean-Christophe Becquet, président de l'April. Jean-Christophe qui a une chronique donc, mensuelle intitulée « Pépites libres ». Et aujourd'hui, je crois que tu veux nous mettre... ou plutôt nous parler de la récente annonce de Flickr concernant les photos sous licence Creative Commons et autres licences libres. Jean-Christophe, nous t'écoutons.
Oui, bonjour. Donc, vous recherchez une photo pour illustrer une présentation, un article en ligne, un flyer. Depuis 2004, en fait, la plateforme Flickr offre à ses utilisateurs la possibilité de choisir une licence Creative Commons pour leurs images. Et ça représente aujourd'hui, en 2019, plus de 50 millions de photos pour lesquelles les auteurs ont préféré une licence libre. Le moteur de recherche de Flickr permet de sélectionner les photos sous licence libre, c'est-à-dire pour lesquelles la copie, l'utilisation commerciale et la modification sont autorisées. Cela recouvre trois licences Creative Commons. La CC BY avec 35 millions de photos, la CC BY SA avec 21 millions de photos et la CC 0, 1 million de photos. À cela s'ajoutent les œuvres du domaine public, encore 3 millions de photos. Alors la prochaine fois que vous aurez besoin d'une image, pensez à cette outil. Trouvez la photo qui vous convient, copiez-la, modifiez-la, intégrez-la dans votre composition. Mais surtout, n'oubliez pas de créditer l'auteur. Les nouvelles conditions d'utilisation de la plateforme suite au rachat par SmugMug rentrent effectivement en vigueur aujourd'hui. Et certaines photos vont être supprimées sur les comptes qui dépassent les nouveaux quotas pour les utilisateurs qui n'ont pas souscrit un abonnement payant. Et la bonne nouvelle, c'est que l'entreprise s'est engagée à n'effacer aucune photo sous licence Creative Commons. Nous voulons nous assurer de préserver ces œuvres pour quiconque pourrait en bénéficier, a déclaré Andrew Salden, vice-président produit chez Flickr. Avant d'ajouter, nous savons que le coût de stockage et de diffusion de ces images est largement compensé par la valeur qu'elles représentent pour tout le monde. Cette décision est saluée par Creative Commons, ainsi que par la fondation Wikimedia, qui voilà une annonce fantastique pour celles et ceux qui s'intéressent à l'avenir de la connaissance libre. Il existe d'ailleurs un outil sous licence GPL pour transférer des photos depuis Flickr vers Wikimedia Commons. Flickr to Commons. Le web fête aujourd'hui ses 30 ans d'existence. L'arbitrage de Flickr en faveur des images sous licence Creative Commons pour cette fois ne doit pas nous faire oublier les dangers de la centralisation croissante du réseau. Un moyen de contribuer à la pérennité des ressources libres consiste à les disséminer, telles des graines de créativité qui ne demandent qu'à germer, pour éclore sous la forme de nouvelles réalisations. Alors, pour les faire vivre, devenons tous les acteurs d'un web libre et ouvert. Copions, partageons, adaptons et réutilisons, enrichissons. Bref, contribuons.
Alors merci Jean-Christophe. Donc peut-être pour préciser la décision de Flickr, et on reviendra après sur la partie centralisation contre décentralisation. Donc si je comprends bien, Flickr a annoncé récemment un changement dans son mode de fonctionnement et notamment d'abonnement, et avec des quotas, et que donc les personnes avaient qui ne passaient pas à l'abonnement payant avaient jusqu'au donc 12 mars, donc aujourd'hui, pour supprimer des photos, pour descendre sous un quota, je ne sais plus c'est combien de photos ou combien de mégas, mais peut-être que tu nous préciseras.
1000 photos, je crois, par utilisateur.
Donc 1000 photos par personne qui utilisait les services de Flickr. Et qu'il y a une exception qui a été mise en place, donc suite visiblement à des discussions, on peut supposer quand même, avec l'organisation Creative Commons. Donc Flickr a mis cette exception, ce qui donc, ça a été annoncé il y a quoi, il y a 3 semaines, 1 mois à peu près.
Oui, oui, c'est tout récent, hein, parce que la première annonce, en fait, ne portait que sur les photos mises en ligne avec des contraintes de date. Et là, récemment, ils ont élargi l'annonce en disant que quelle que soit la date de mise en ligne des photos, dès lors qu'elles sont sous licence Creative Commons, alors ils s'interdisent de les supprimer.
D'accord, donc ça signifie pour les personnes qui utilisent Flickr aujourd'hui et qui ne souhaitent pas passer à l'abonnement payant et rester, et ne pas subir ce quota, soit c'est de supprimer des photos, soit c'est d'en profiter pour diffuser leurs photos sous des licences libres, donc Creative Commons, comme tu as dit, donc partage à l'identique par exemple. C'est aussi une bonne occasion peut-être pour sensibiliser ces personnes au fait que quand elles mettent en ligne des photos, si elles ne précisent pas les conditions de réutilisation, ben les gens par défaut normalement n'ont pas de droit d'usage, donc c'est important de préciser ce droit d'usage. Donc ça se termine aujourd'hui, donc le 12 mars, donc je suppose que c'est le 12 mars au soir que ça va se terminer.
Oui, je pense que les photos vont être effacées dans la journée, peut-être même un délai technique qui se prolonge dans les jours qui viennent, mais en tout cas, l'entrée en vigueur des nouvelles conditions, c'est aujourd'hui. Et donc, voilà, on peut se réjouir à double titre. D'une part, parce que les photos existantes pour lesquelles les auteurs ont choisi des licences Creative Commons seront préservées. Et donc, on a une pérennité de cette ressource de plusieurs millions de photos. Et d'autre part, effectivement, comme tu l'as dit, je pense que cette annonce aura des vertus pédagogiques et permettra aux personnes qui mettent en ligne des photos sur Flickr au moins de se poser la question de la licence et du coup d'aller voir. D'ailleurs, Flickr est pas mal fait de ce point de vue-là. Ils explicitent la signification de chaque licence et des différentes clauses des licences Creative Commons. Et donc, on peut supposer que ça encouragera des personnes à faire le choix d'une licence libre. Parce qu'effectivement, c'est un paradoxe. Hein. Souvent, les gens partagent en ligne des photos, les mettent en accès public, et oublie que s'ils ne disent rien, comme tu l'as dit, eh ben, tout est interdit. Et donc les licences libres, dont certaines licences Creative Commons que j'ai citées, la CC BY, BY SA, CC0, permettent d'explicitement donner des droits d'utilisation, de copie, de réutilisation sur les images qu'on partage en ligne.
Alors, important de préciser, c'est y compris pour des usages commerciaux. Je le précise parce que dans le cadre de l'émission, on diffuse des musiques qui sont sous ce type de licence. Et la pause musicale d'après, c'est une artiste qui justement a écrit il y a quelques années un article pour expliciter pourquoi elle avait choisi ses licences Creative Commons. Alors en l'occurrence, elle, c'est la CC BY avec réutilisation de l'usage commercial. C'est souvent quelque chose qui choque les gens ou en tout cas qui les questionne. Donc les licences que tu as citées autorisent toutes la réutilisation pour des usages commerciaux. Donc ça, c'est aussi important à préciser dans la réflexion. Alors, donc là, on parle de Flickr, évidemment, c'est pour les personnes qui utilisent ce site, c'est plutôt une bonne décision. Par contre, bon, on ne peut pas s'empêcher de penser déjà, enfin de préciser quand même que l'annonce de Flickr, que l'engagement de Flickr, ben, il n'y a que Flickr qui peut le tenir, hein, on va le rappeler hein, quand même. Donc, c'est-à-dire que, à minima, les personnes qui utilisent ces services, on les encourage quand même à avoir une copie de leurs photos chez eux, hein, chez elles, c'est un minimum. Après, il y a d'autres services qui existent. Alors, par exemple, tu parlais tout à l'heure de Wikicommons. La semaine dernière, on avait une émission sur Wikipédia. Effectivement, Commons accueille aussi des photos libres. Alors, ce n'est pas forcément les photos de tout le monde, mais en tout cas, comme tu l'as dit, il y a des outils qui permettent de passer des images de Flickr via Commons. Donc c'est une façon aussi de disséminer et de garantir la pérennité de ces images et de les avoir sur plusieurs endroits. C'est-à-dire pas simplement uniquement sur Flickr, d'autant plus que si elles sont sous licence libre, de les mettre sur d'autres sites qui peuvent en plus enrichir les communs, parce que quelqu'un qui va prendre par exemple une photo très, très intéressante qui peut intéresser Commons, libre à elle de la mettre éventuellement sur Flickr, mais on l'encourage aussi à la poster sur Commons pour enrichir un commun informationnel important et qui soit en plus partagé partout dans plusieurs endroits.
Tout à fait, oui.
Et aussi, on peut espérer que dans les années à venir, vont se développer des outils de, on va dire, d'hébergement de photos décentralisées, sur le même modèle, par exemple, que Mastodon, aujourd'hui, est une version décentralisée qui permet d'échanger du microblog versus Twitter, qui est une version centralisée. Donc aujourd'hui, il y a des outils qui sont en cours de démarrage, par exemple PixelFed, mais je ne suis pas sûr de l'état de développement actuel de PixelFed, mais qui toutes s'appliquent, utilisent en tout cas un protocole qui s'appelle ActivityPub, dont on a parlé il y a deux émissions avec Stéphane Bortzmeyer. Donc voilà, aujourd'hui on comprend que Flickr c'est un site assez incontournable pour beaucoup de personnes, mais on encourage les gens quand même à suivre ce qui se passe, notamment sur les outils décentralisés. Il y a aussi, quand vous prenez par exemple un hébergement web, vous avez sans doute des fournisseurs qui vous proposent d'installer une galerie photo à base de logiciels libres. On encourage aussi les gens à aller voir du côté des chatons, de nos camarades de Framasoft, de toutes les personnes qui participent au collectif chaton. Donc un chaton, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc c'est chaton avec un s.org. Donc c'est un ensemble de structures, l'April en fait partie ainsi que d'autres, qui proposent divers services. Il y a de l'hébergement de fichiers, il y a des services de sondage, et peut-être que certaines proposent des hébergements de photos permettant d'héberger aussi ces photos ailleurs que Flickr. Parce que je le rappelle que l'engagement de Flickr, même si on peut le saluer, c'est toute la décision de changer appartient à Flickr. Et donc il faut absolument ne pas dépendre que de cette seule décision. Et justement, le fait que ce soit sous licence libre le permet en plus.
Oui, tout à fait. L'enjeu, c'est vraiment la pérennité hein, de l'accès à ces ressources. Donc voilà, utiliser la plateforme Flickr aujourd'hui dans la mesure où la plateforme Flickr joue le jeu ne me semble pas un mauvais choix. Mais à la condition, comme tu l'as dit, de privilégier des copies multiples de ces photos. Sur Wikimedia Commons, lorsque la nature de la photo le permet, voilà, Wikimedia Commons n'accepte pas tout type de photos, notamment les photos personnelles ou familiales n'ont pas leur place sur Commons. Par contre, toutes les photos d'intérêt culturel, patrimonial, ont leur place sur Commons. Donc celles-ci peuvent être tout à fait dupliquées sur Commons. Et ensuite, pourquoi pas effectivement chercher d'autres hébergements sur lesquels dupliquer ces photos. Moi, le principal intérêt que je vois aujourd'hui dans la plateforme Flickr, c'est le moteur de recherche qui, grâce au nombre absolument énorme de photos proposées, permet de trouver des photos libres sur à peu près n'importe quel sujet, voilà, pour, comme je le disais en introduction, pour illustrer une présentation, un cours, un article. Voilà, on peut aujourd'hui, sur à peu près n'importe quel sujet ou lieu, trouver des photos sous licence libre, avec évidemment une qualité qui est variable hein, selon les photos, selon les auteurs. Mais personnellement, en tout cas, en tant que conférencier, formateur, j'utilise Flickr comme ressource, et j'y trouve souvent mon bonheur.
Ben écoute, Jean-Christophe, ça me paraît très clair. Je vais juste rajouter que, a priori, Flickr permet de rapatrier ses photos, ce que ne permet pas forcément tous les sites. Alors, n'étant pas utilisateur de Flickr, je ne pourrais pas garantir que ça fonctionne absolument, mais en préparant l'émission, j'avais été voir qu'il y avait des outils qui permettaient de rapatrier ces photos, donc c'est plutôt une bonne chose. Je vais préciser pour finir que sur le site de l'April, donc dans la page consacrée à l'émission, vous retrouvez les références, donc à la fois le communiqué de Flickr, le moteur de recherche, le lien vers le moteur de recherche, les réactions de Creative Commons, le script, enfin l'outil qui permet de passer de Flickr à Commons pour un certain nombre de photos d'utilité publique. Tout ça sur le site de l'April, donc april.org, dans la page consacrée à cette émission. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de conclure, Jean-Christophe ?
Non, juste par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, dans les références, j'ai aussi mis le lien direct vers le moteur de recherche paramétré pour chercher uniquement parmi les photos sous licence libre. Voilà, donc il suffit de cliquer sur ce lien et de taper son mot-clé ou son critère de recherche pour avoir immédiatement une recherche parmi les images de Flickr uniquement celles qui sont sous licence libre et qui satisfont donc les conditions de réutilisation, d'utilisation commerciale et de modification.
Ben écoute, Jean-Christophe, merci pour cette chronique et puis on va sans doute se retrouver le mois prochain pour la prochaine chronique. Nous te souhaitons passer une belle journée. À bientôt.
Belle journée également, bonne suite d'émission et rendez-vous en avril. Au revoir.
Au revoir. Alors, on parlait de photos libres, ben nous allons passer une musique libre. Donc l'artiste s'appelle Killy Mays et le morceau s'appelle Yesterday.
Cause commune, cause-commune.fm.
Negativity. See, that's why I don't watch TV. I thought that you cared about me, but now I see you said you loved me. I disagree.
Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power all along. Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power all along.
Before we see, I was that before I was me. I'm pulsing lonely in my field of gray. Digital bearings program my day. Unfold my mirror, see on through. Discuss it all in terms of you. Bleeding hands reveal my love. I'm seeking all the meanings from above.
Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power on.
Find a light. Fuck the weak folks who won't fight. We gotta stand up and take what's ours. Show the youth how to reach for the stars. I'll take my spaceship straight to Mars. And you could chill in those corporate bars. But I would love some company. So how's about you joining me? In fact, you could steer, baby. Then bring the others and we will all be free. Cause if I'm secluded, then you're alone. I'm slowly torn from my throne. Wasted visions of purity. Salvation isn't found in the majority. Collect my values in my purse. I bore my soul with each new verse.
Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power all along. Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep moving on. I've had the power.
Alors, nous venons d'écouter, ça s'est coupé un petit peu abruptement, nous venons d'écouter donc Killy Mays, le morceau s'appelle Yesterday. Et comme je vous disais avant la pause musicale, cette artiste américaine a écrit un article il y a quelques années expliquant comment entrer dans le monde de la musique. Et l'un de ses conseils, c'était de diffuser ses musiques sous licence Creative Commons By, c'est-à-dire attribution. Donc évidemment, la référence est sur le site de l'April, april.org. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1. En Ile-de-France et sur causecommune.fm partout ailleurs. Juste avant la pause, nous parlions de photos libres. Maintenant, nous allons aborder notre sujet long, donc avec nos invités Martin Drago et Arthur Messot de la Quadrature du Net. Donc, bonjour Martin, rebonjour Martin, rebonjour Arthur.
Ah, bonjour.
Et mon collègue Étienne Gonu, donc en charge des affaires publiques, a pris place à la table pour animer cette partie de l'émission, donc qui va porter sur le projet de règlement terroriste censure sécuritaire. Donc je te passe la parole, Étienne.
Merci Fred. Bonjour Arthur, salut Martin. Peut-être première question, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce qu'est la Quadrature du Net ?
Alors, on va se répéter, j'imagine. Mais la Quadrature du Net, c'est une association qui, depuis 10 ans, lutte contre la censure et la surveillance sur Internet, qu'elles viennent d'entreprises privées ou d'État. Donc, ça peut être, pour faire large, à commencer avec les questions de droits d'auteur, où on a vu les premières mesures de censure apparaître. Et après, malheureusement, ça s'est étendu à des questions un peu plus tristes, comme les mesures de réaction au terrorisme. Aujourd'hui, on va avoir une réaction à la haine ou au racisme en ligne. Donc des choses un peu moins fun que lutter contre ACTA ou lutter contre l'industrie musicale qui se mange les pieds dans le tapis tout le temps. Donc là, voilà, on va lutter entre autres contre le ministère de l'Intérieur et aussi contre les GAFAM qui, comme on va le voir, ne sont pas étrangers aux stratégies sécuritaires des gouvernements.
Bah, bien, tu voulais rajouter quelque chose, Martin ou...
Non. Peut-être en ce moment, peut-être qu'on essaie un peu plus de développer nos activités, enfin notre lutte sur un peu les outils technologiques de surveillance dans l'espace public, donc tout ce qui est reconnaissance faciale, micro, etc.
Pas
c'est
que
un
Internet,
peu un nouveau champ, ouais, voilà, pas que Internet.
Ok. Bah, si vous suivez nos actualités à l'April, vous voyez qu'on a effectivement des similitudes dans nos champs d'action. Alors, tu parlais de droits d'auteur, nous, on est effectivement très mobilisés sur la directive de droits d'auteur. Je pense qu'on reviendra un peu plus tard sur les mobilisations, et je pense qu'il y a des problématiques très similaires, du moins dans les menaces qui nous sont portées. Bien sûr, là, si on a invité la Quadrature du Net, donc c'est sur cette mobilisation contre la proposition de règlement relative à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. On a un bel exemple de Novlang, et qui est en ce moment discuté donc au Parlement européen. Donc là, on est vraiment dans l'actualité. D'ailleurs, pour celles et ceux qui suivent nos actualités, nous avions signé effectivement un de vos appels en décembre 2018 contre la censure sécuritaire, ce qui est clairement ce texte-là. Alors, je pense qu'on pourra tous être d'accord pour te dire que lutter contre la diffusion de contenu qualifié de terroriste, que ce soit pour limiter la propagation, on va dire, d'un appel à la commission d'actes dits terroristes, du coup, ou simplement de préserver notamment les plus jeunes, on peut penser à l'exposition à certaines images très violentes, ça, on peut considérer que c'est en soi des buts légitimes de politique publique, des pouvoirs publics. Mais souvent, voilà, comme souvent, la question, c'est comment on s'y prend, quelles sont les actions qu'on mène collectivement pour lutter justement sur cette problématique très complexe. Et là, on peut se poser la question de comment justement le règlement entend régler ces questions-là, adresse ces questions-là, et finalement, pourquoi se mobiliser contre ce règlement qui, on peut se dire, porte des ambitions légitimes.
Peut-être pour recadrer vis-à-vis de l'actualité. Donc ce règlement, il a été proposé par la Commission européenne en septembre 2018. Donc on reviendra un peu plus tard sur sa genèse et pourquoi en fait c'est pas du tout un hasard qu'il soit arrivé l'année dernière. Et donc là, depuis septembre, le texte a été négocié assez rapidement. Et aujourd'hui, il est devant le Parlement européen et on a un premier vote décisif le 21 mars. Voilà, donc on est en plein, c'est dans 10 jours, hein. Donc on est en plein dans l'actualité. C'est un des textes qu'on a vu avancer le plus vite dans l'Union européenne. Donc là, en septembre, ça devait être quoi, il y a 8-9 mois, et on va avoir un texte qui est potentiellement bouclé, alors qu'il a des conséquences extrêmement vastes, et que tous les parlementaires qu'on a rencontrés nous disent tous qu'ils sont incapables de travailler dans des conditions raisonnables, vu les délais. Et les délais, c'est quoi, ouais, tout le monde comprend, c'est les élections européennes qui arrivent, et tout le monde veut boucler, tout le monde veut avoir son petit trophée, sa petite médaille à agiter au moment des élections européennes, en mode, regardez, on a lutté contre le terrorisme, même si on a fait n'importe quoi et qu'on ne comprend pas ce qu'on a fait, regardez comme on est sérieux et qu'on défend l'Union européenne.
Mais c'est sûr que l'héritage, on le voit souvent. Alors, tu parles justement de la rapidité, effectivement, de la procédure. On peut préciser, parce que ceux qui suivent l'April savent que là, nous, on est, par exemple, sur la directive de droit d'auteur, on arrive en plénière. Là, le vote en 21 mars, il n'est même pas d'heure à ce niveau-là. Il est encore ce qu'on appelle dans la commission jury.
Libé, pardon.
Oui, tout à fait.
Mais c'est possible, il faut voir que c'est possible. Et le but du Parlement européen et de certains députés au Parlement européen, c'est de le faire passer en plénière. C'est leur objectif. Alors, c'est pas sûr qu'ils y arriveront, mais leur objectif, c'est de le faire passer en avril. Donc, en fait, c'est incroyable d'avoir un texte présenté en septembre, adopté par le gouvernement en décembre, et même pas 4 mois après, en plénière, quoi. C'est vraiment exceptionnel.
Alors, ça serait qu'une première lecture, hein, On est habitué dans les processus législatifs au Parlement à une lecture, deux lectures. Bon, là, contrairement à la directive copyright, on arrive plutôt à la fin du processus avec éventuellement une victoire plus ou moins définitive. Le règlement terroriste, quoi qu'il arrive, même si dans le mois qui vient, on arrive un peu à obtenir des choses, ça sera qu'une partie du combat. Et le combat va reprendre en fait après les élections européennes, donc en septembre. Et donc là, tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, il faudra le ressortir, se remettre au frais. En septembre, on devra repartir lutter avec un Parlement européen dont on ne connaît pas la composition politique, mais dont beaucoup craignent qu'elle soit encore plus à droite qu'aujourd'hui. Et ça, c'est clairement inquiétant. Donc nous, si on peut s'offrir un peu plus de temps pour débattre sur un sujet aussi grave, si en septembre, on peut avoir des débats qui prennent plutôt plusieurs mois à la place de juste quelques semaines, on est ravis, hein. Mais ça sera plutôt un Parlement de droite éventuellement, ou un Parlement très pro-Macron. Enfin, voilà. On ne sait pas du tout encore où est-ce qu'on en est. Donc là, on est, contrairement à un copyright, on est encore beaucoup dans l'incertitude. Et ce règlement, voilà, il a deux... Enfin, ce combat contre ce règlement, il a vraiment deux tons. La première tonalité, c'est l'urgence et l'incompréhension. Et la deuxième, c'est des stratégies extrêmement dures à voir, hein, parce que c'est une confusion totale entre le Brexit, on en reparlera après, mais le Brexit vient semer une confusion pas possible là-dedans, et des députés qui ne savent pas de quoi ils parlent, et on ne sait pas au final quand est-ce que ce texte sera adopté. Donc voilà, c'est vraiment un des sujets à la quadrature, je pense, une des luttes qu'on a eues, qui est la plus confuse, et en même temps, quand on regarde le texte de près, on en parlera, la plus dramatique. Et, mais voilà, tout ça dans ce contexte électoral fait que c'est très difficile à la fois de mobiliser les députés et aussi la population, on en reparlera, hein, il y a quand même énormément de luttes en ce moment variées. Et voilà.
Ouais, et la plus compliquée aussi, parce que je trouve que c'est surtout le sujet en fait, et nous on est souvent au Parlement européen avec Arthur, et en gros le texte il s'appelle terrorisme, et ça pour combattre contre un texte comme ça c'est très difficile en fait, parce que dès qu'on prend position contre un texte sur le terrorisme, du coup on peut être taxé de vous êtes pour les terroristes, etc. Donc ça rend les débats encore plus compliqués, parce que rassembler les gens pour lutter contre un texte qui, justement, devrait aider à lutter contre le terrorisme, c'est vraiment extrêmement complexe, quoi. Et même les députés européens nous disent « Ah, mais vous voyez, même ceux qu'on aurait pensé dont on aurait pensé le soutien, eux nous disent « Ah, mais là, je peux vraiment pas voter contre un texte comme ça, c'est trop difficile. » Donc ça, vraiment, le prétexte utilisé par la Commission et les États membres qui poussent le texte, le prétexte du terrorisme, malheureusement, il marche très bien, quoi. Et encore plus dans l'urgence des élections européennes qui arrivent.
Bien sûr. Et je pense, vous parlez là du contexte, je pense qu'il est quand même intéressant. Alors, moi, j'ai cette sensation, quand même, que le prétexte, on va dire, terroriste, c'est. À quelques années, on pouvait encore, quand même, entendre des personnes dire oui, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi à condition de terrorisme. Il faut quand même respecter l'état de droit, balancer, enfin, avoir des réponses proportionnées par rapport à la menace. Là où j'ai l'impression qu'à une époque, sur le copyright, quoi qu'il en soit, de toute façon, comme il s'agissait de sauver les auteurs qui meurent de faim, on pouvait tout se permettre. Je ne sais pas si ça a tant évolué sur le droit d'auteur, mais en tout cas, sur le terrorisme, clairement, il est très difficile d'entendre une voix divergente, effectivement, maintenant. Alors peut-être qu'il peut être intéressant aussi de voir peut-être que ce texte-là est situé à un niveau européen. Je crois que la France, on pourra en reparler, la France a joué un rôle assez prédominant. Et si on regarde notamment en France l'évolution des textes sécuritaires, je pense qu'il remonte depuis 2013 notamment, mais bon, on avait déjà des prémices avant, il y a quand même un contexte, une surenchère de textes sécuritaires qui fait qu'on est encore dans un état de droit où on parle d'ailleurs régulièrement liberté, première des sécurités, non, sécurité, pardon, première des libertés. Ouais. Voilà, on est quand même dans un contexte assez particulier. Donc j'ai bien peut-être comment vous ressentez ça, notamment dans votre mobilisation, dans les contacts que vous avez avec les parlementaires et puis de votre expérience à la Quadrature du Net.
On était encore à Bruxelles la semaine dernière. C'est assez fou de voir. Donc, on souligne tous les dangers du texte. Pourquoi il est inefficace? Pourquoi il va détruire une partie du web, de l'internet décentralisé, etc. Et moi, ça m'a vachement surpris d'avoir plein de députés qui font ouais, mais en fait, on peut pas ne rien faire. Et quand on soulève ces difficultés, en fait, leur truc, c'est on se rend compte qu'ils ont pas réfléchi sur le texte, mais que c'est juste le prétexte du terrorisme. En fait, on sent qu'ils sont poussés de tous les côtés. Ils ont peur pour leur élection. Et ça marche trop bien, quoi. Et en fait, on s'est retrouvé devant des députés qui n'ont même pas réfléchi parce qu'en fait, on leur a dit terroriste et du coup, ils votent. En fait, donc ça, c'est assez incroyable à voir, quoi, devant soi quand on parle.
On en parlera dans le détail, je pense aussi, mais le texte, il n'a rien changé contre le terrorisme. Il est complètement vide, il n'a pas du tout été pensé pour être utile, il a été pensé pour être un symbole. Et nous, quand on explique ça aux députés, ils nous disent, ils soufflent et ils sont là genre, ok, peut-être que vous avez raison, mais imaginez qu'un attentat demain, et que c'est vraiment le truc ultra classique. Hein. Imaginez qu'un attentat demain, moi, si mes électeurs ils voient que j'ai rien fait pour éviter ça, on va me le reprocher. Donc il faut même que je fasse quelque chose, même si c'est inutile, même si je sais que ça ne sert à rien. Si je ne fais rien, ce sera encore plus grave que si je fais quelque chose d'inutile.
Et d'ailleurs, en décembre, pendant le débat sur ce texte, le Parlement européen a adopté un rapport. Donc c'est pas un texte législatif proprement dit, c'est juste plein de bonnes intentions, on va dire, entre guillemets, du Parlement européen sur le sujet du terrorisme. Dedans, il y avait beaucoup, beaucoup de trucs problématiques, dont déjà l'idée des filtres automatiques, donc on reviendra sur le détail du texte, filtres automatiques, quelques attaques contre le chiffrement, parce que ça permettait aux terroristes d'échanger des messages. Et le texte, il a été voté le lendemain de l'attentat de Strasbourg.
Et en fait, il a été voté à Strasbourg.
Il a été voté à Strasbourg, et donc en plus, ils ont voté alors que toutes les portes étaient fermées, etc. Ça montrait l'ambiance, et en fait, du coup, c'est impossible de discuter en fait sur le texte. Même nous, je crois qu'on a fait un article, mais c'est hyper difficile, et du coup, tous les députés se sont couchés, même s'il y avait des difficultés, parce que il y avait un attentat en cours, quoi.
Après, sur la façon dont le public reçoit ça, je pense que c'est assez variable. Si on remonte à 2013, tu disais, donc c'était la LPM de 2013, après qu'elle enchaîne directement avec la loi renseignement, où le gouvernement met en avant systématiquement des prétextes terroristes pour donner plus de pouvoir pour surveiller la population. Alors qu'évidemment, dès qu'on regardait dans le détail du texte, on voyait que le terrorisme n'était qu'une parcelle du texte, et que la plupart du texte ne concernait pas du tout le terrorisme, mais plutôt de la surveillance économique ou de la surveillance politique. Bon, à l'époque, je pense que ça prenait, ça commençait à être un peu... Mais pour nous, quand même, c'était assez récent de s'en prendre au gouvernement sur ces questions, mais les gens étaient réceptifs. Et là où les gens étaient encore plus réceptifs, je pense, notre public en tout cas, c'est pendant l'état d'urgence, où là, on a eu une espèce de tombée des masques, où tout d'un coup... Le prétexte terroriste était clairement utilisé sans gêne pour faire de la censure politique ou pour faire du harcèlement de certaines populations. Donc là, tout le monde avait conscience de ça. Et nous, à la Quadrature, on a quand même senti un soutien assez fort de la part du public qui ne se faisait pas du tout avoir sur le prétexte terroriste. Mais alors là, ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi cette campagne elle est dure en dehors de l'urgence, c'est parce que, en fait, si on regarde depuis 3 mois ou depuis 6 mois, les sujets avec ce niveau d'anxiété, il y en a plein en France. Il y en a plein. Donc là, on a la loi anti-casseurs qui ressemble beaucoup en fait à la loi anti-terroriste dans ses fondements philosophiques. On va avoir la loi contre la haine en ligne qui va reprendre les mêmes mesures, qui va reprendre les mêmes logiques au moins techniques. On a toute la réaction aux gilets jaunes de la part du gouvernement qui s'inscrit beaucoup dans cette idée de il faut plus qu'il y ait d'espace de non-droit, il faut civiliser les gens ou il faut civiliser Internet. Ben, c'est la même chose, là, vu que le mouvement des Gilets jaunes est expliqué comme étant né sur Internet. Donc on a tout ce bric-à-brac qui fait que, en plus de ça, si on rajoute le mot terroriste, ça devient extrêmement compliqué de regarder ça au calme. Alors on y arrive, hein, si on regarde le texte, en fait, le texte n'est pas très compliqué. Mais pour le public, je pense que c'est compliqué d'avoir une grille de lecture homogène entre toutes ces différentes attaques contre nos libertés.
Alors, tu évoques le terme de terrorisme et je pense que c'est important aussi de se poser la question aussi de qu'est-ce que ça veut dire en droit, parce que finalement, là, on parle de texte de droit. Mmh. En droit, on sait que c'est extrêmement... Enfin, là, surtout dans un état de droit, si on parle de démocratie, etc., la lisibilité du droit est extrêmement importante. Donc, ça veut dire de savoir déjà est-ce que ce qu'on fait est autorisé ou non et quelles sanctions on encourt. Alors, il y a une directive de 2017 qui définit ce qu'est un acte terroriste. Alors, la particularité, c'est pas que tant les actes, vous allez pouvoir me préciser tout ça et me corriger éventuellement, c'est pas tant les actes, mais l'intention qui serait derrière l'acte qui va venir définir tout ça. Je trouve que c'est assez tautologique, en fait, tout ça. Mmh. Et alors, c'est vrai qu'on entend souvent, presque sur le ton de la plaisanterie, maintenant, de toute façon, le droit antiterroriste, ça sert à mettre les écolos en prison, quoi. Donc, parce que je crois que ce texte, déjà, le règlement ne définit pas du tout, il s'appuie sur la directive de 2017. Et est-ce que vous pouvez nous rentrer dans les détails, mais comment est-ce que cette directive définit justement cette notion de terrorisme, d'acte terroriste ?
Alors, donc la directive, elle définit de façon très large. Alors, je ne vais pas vous lire les textes, là, je ne les ai pas sous les yeux. Mais nous, dans les actes qui nous inquiétaient le plus, on allait avoir du piratage informatique ou des destructions matérielles importantes, donc qui ont des conséquences économiques importantes. Alors évidemment, on va retrouver le meurtre et d'autres choses, mais il y a déjà ces deux choses-là, et comme tu le disais bien, c'est l'intention qui va permettre de qualifier l'acte. Et l'intention, encore une fois, c'est très large, ça va être déstabiliser des institutions politiques, mais aussi économiques, donc déstabiliser gravement, ou essayer d'influencer une décision de l'État ou de collectivité.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est au-delà de la définition, c'est en fait c'est qui interprète la notion. Et nous, c'est surtout vachement ce qui nous inquiète, c'est-à-dire que dans ce texte, ceux qui interprètent la notion, c'est la police, donc qui peut avoir une visée très large et du coup avec un risque de censure politique derrière, ou alors une délégation, on en reviendra après, mais aux géants du net aussi, et même à tous les acteurs de l'Internet, avec des grosses sanctions financières si vous censurez pas et si vous obéissez pas à la police. Donc en fait, eux aussi, c'est normal, hein, pour éviter une sanction financière hyper importante, vont avoir une interprétation très très large. Donc il faut bien voir qu'effectivement, il y a un problème sur la définition de la notion, mais c'est surtout c'est qui l'interprète et qui va l'interpréter pour sanctionner derrière. Et
je vais appuyer ton point sans être trop provocant, parce que c'est pas le but. En fait, il y a un débat à savoir si c'est vraiment intéressant de se pencher sur la notion de terrorisme. Parce que comme tu le dis, les écolos vont être qualifiés de terroristes, ou en tout cas des mesures antiterroristes vont être utilisées contre eux. Mais à la limite, est-ce que c'est notre rôle de dire que c'est vrai ou pas? Si après tout, il y a des écolos qui veulent s'inscrire dans des pratiques proches du terrorisme, et comme on a eu des mouvements politiques terroristes depuis voilà, 300 ans, c'est pas notre rôle de dire, de qualifier ça ou de réécrire l'histoire, ou de dire « Ah, mais en fait, les Algériens qui ont provoqué leur indépendance, eux, c'était des gens antiterroristes, contrairement aux anarchistes du début du XXe qui étaient... » Enfin, c'est pas notre rôle de réécrire l'histoire, de réécrire les définitions. Et comme le dit Martin, en fait, c'est plus des questions de séparation des pouvoirs qui vont être importantes, plus que de définition. Faut pas être trop légaliste, à trop s'en tenir au texte en disant « Ah, le texte, il dit que telle catégorie, c'est bon, et telle autre, c'est pas bon. » En fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui interprète les catégories. Est-ce que c'est le pouvoir politique, donc le gouvernement via sa police, qui choisit ce qu'on a le droit de faire ou pas, ou est-ce que c'est une autorité indépendante? Et de façon classique, l'autorité indépendante, ça sera le juge. Donc voilà, donc pas trop peut-être passer trop de temps à trop coller au texte pour essayer de comprendre, en sachant qu'avec le texte, on s'en fiche un peu de ce qu'il y a écrit, parce que c'est la personne qui va le lire et l'appliquer qui est peut-être le plus important.
Là, peut-être qu'un point, je pense qu'on peut commencer peut-être, bon, malgré tout, à rentrer un peu dans le texte. Et apparemment, quand même, ce qui est un des points de friction et un point de tension particulier, c'est ce qu'on sort du rôle finalement du juge et on donne un pouvoir. Alors, la directive semble juste laisser la porte ouverte. On sait très bien qu'à partir du moment où ils ouvrent cette porte, on imagine très facilement un danger, c'est-à-dire de dire que c'est aussi l'autorité administrative qui va pouvoir décider si un contenu en ligne va relever ou non de la qualification de terrorisme. Donc déjà, peut-être pourriez-vous préciser un peu ça. Et je pense que parallèlement, c'est intéressant ce que vous aviez commencé aussi à évoquer la question du rôle des plateformes et peut-être déjà définir quel type de plateformes vont être concernées et donc leur rôle est un peu, voilà, c'est un peu, parce que ça va être les deux acteurs principaux de si ce texte passe de l'application de ce régime-là, donc voilà.
Alors le pouvoir de censure, donc effectivement, dans le texte, en fait le texte ne va pas préciser exactement quelle autorité a le pouvoir d'ordonner à tous les acteurs du web, parce que dans le règlement tel qu'il a été proposé par la commission, en gros c'est tout le monde, tous les acteurs du web, donc tous les sites internet
qui hébergent
du contenu.
Mais qui mettent à disposition. Il faut quand même qu'il y ait ces notions.
C'est pas clair. C'est pas encore très clair. Mais a priori, ça sera mis à disposition du public. Ouais.
Aujourd'hui, en fait, dans le texte, c'est mis à disposition des tiers et pas juste du public. Donc ça peut être quand même extrêmement large. Et donc le texte, il permet à la police, enfin à une autorité, d'ordonner à ses acteurs de supprimer un contenu que elle, l'autorité, a défini comme terroriste, et l'acteur doit le censurer en une heure. Sinon, derrière, il peut avoir des sanctions très importantes. Alors, c'est encore aux États de décider, mais sinon, dans le règlement, c'est 4% du chiffre d'affaires de l'acteur. Effectivement, le texte, et nous, on le répond souvent au Parlement, on dit « Ah, mais oui, mais il n'y a pas marqué que ce sera la police qui doit le faire. » En fait, il laisse le choix. Ça peut être une autorité administrative ou judiciaire. En fait, le fait est que tout le monde et tous les États préféraient avoir une autorité administrative parce que eux estiment, mais ce n'est pas toujours le cas, que c'est beaucoup plus rapide. Et en France... nous, on nous l'a dit qu'on a vu les ministères, etc. Et en France, aujourd'hui, ça existe déjà, hein, cette possibilité de censure en 24 heures. Alors là, en France, c'est 24 heures, c'est pas juste une heure. Et c'est déjà, c'est déjà la police qui le fait. Alors un office, j'arrive jamais à retenir le nom.
Au CLCTIC.
Voilà.
Dont
on a déjà vu, et ça, c'est intéressant à souligner, les dérives aujourd'hui, en fait. Donc en France, cette obligation de censure en 24 heures, forcée par la police, elle existe. Récemment, il y a eu l'affaire Indymedia qui est assez intéressante. Donc on a eu la police française qui a utilisé son pouvoir, qui a ordonné la censure de certaines pages d'un site Indymedia qu'elle a considéré comme terroriste. Donc les pages ont été censurées pendant un an et demi jusqu'à ce qu'un juge soit saisi. Et jusqu'à ce qu'un juge, il y a un mois, ait dit « mais en fait, c'est pas du tout un contenu terroriste, vous n'avez pas le droit de censurer ». Donc ça, je trouve ça toujours intéressant à souligner, en fait, c'est qu'en France, le risque de dérive politique de la censure, il existe déjà, il est déjà arrivé, et va être encore plus amplifié avec un règlement comme ça, où il y a des obligations encore plus strictes que ce qui existe en France aujourd'hui.
Ce qui est dramatique sur le cas français, et qui nous apprend aussi un peu sur l'Union européenne, c'est qu'un argument qui revient souvent entre les députés, donc là qu'on a rencontré la semaine dernière notamment, c'est « Ah mais vous comprenez, on ne peut pas exiger un juge dans le règlement antiterroriste, parce que sinon, ça remettra en cause le droit français. » Du coup, on a un nivellement par le bas terrible, où en fait, il n'y a à peu près qu'en France et au Royaume-Uni que la police peut censurer sans l'autorisation préalable d'un juge, et du coup tout le monde s'aligne sur le régime le moins respectueux des libertés et de la procédure et de l'état de droit, et voilà, il suffit qu'il y ait un cancre dans les 28 états membres, ou les 27 bientôt, pour que tout le monde s'abaisse à son niveau. Et c'est ça l'Union européenne aujourd'hui des libertés, en tout cas la façon dont les parlementaires et les gouvernements le pensent. Alors que, au contraire, si l'Union européenne voulait se donner les moyens de fonctionner à l'inverse, que ce soit par exemple les juridictions européennes ou le pays le plus protecteur qui montrait l'exemple, ce serait possible. En fait, ce qui se passe, c'est, je vais dire juste trois mots, mais quand la Cour de justice de l'Union européenne, qui est la Cour suprême en gros de l'Union européenne, prend une décision qui va par exemple interdire des mesures de surveillance généralisée de la population, la plupart des États membres refusent d'appliquer les décisions de justice de l'Union européenne. Donc dès que l'Union européenne propose plus de liberté pour la population, là tout d'un coup on s'en fiche, l'intégration c'est chacun chez soi, et après tout les valeurs françaises sont plus importantes que celles européennes. Par contre, dès qu'il s'agit de niveler par le bas, ah là l'Union européenne c'est quand même bien, bien pratique et bien efficace. Alors pour répondre à ta seconde partie, je te laisserai compléter Martin, sur comment les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, alors peut-être pas les cinq là de la même façon, mais comment sont-ils mis dans le jeu. Donc alors là, on va un peu remonter dans le passé. C'est vraiment important pour comprendre, je pense. En 2015, on a une série d'attentats en France et en Belgique qui sont très très impressionnants. Du coup, la Commission européenne met autour de la table Google, Facebook, Twitter et Microsoft, alors en disant « faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas ne rien faire, etc. » Eux, ils disent « pas de souci, nous, on est ravis pour collaborer là-dedans. » Et ils créent le forum européen de l'Internet, qui correspond en fait à une autre structure qu'au niveau mondial, les 4 acteurs avaient déjà fait. Donc, il y a pour but de mettre en commun des réflexions et des ressources technologiques pour lutter contre la propagation de contenus terroristes en ligne. Donc, dès fin 2015. Pendant 2 ans, ils continuent leurs expérimentations et tous les 6 mois, la Commission européenne, à leur côté, fait des déclarations publiques en disant que c'est de mieux en mieux, qu'ils sont ravis. Et donc, ils commencent à expliquer qu'ils ont fait une base de données commune entre les 4 entreprises, où en fait, chaque entreprise, dès qu'elle repère un contenu terroriste, donc la façon dont ils repèrent, en général, c'est avec des fermes à clics, donc c'est des milliers de personnes qui sont embauchées en Asie du Sud-Est, au Maghreb, en Amérique du Sud, qui toute la journée regardent des contenus signalés et qui disent c'est terroriste ou pas terroriste. Et quand une de ces personnes-là, exploitée, hein, économiquement en tout cas exploitée, quand une personne dit que le contenu est terroriste, ça va, on fait une empreinte numérique, un hash de la vidéo ou de la photo, qui va dans la base de données commune aux 4 entreprises. Et comme ça, après, dès qu'une image est mise en ligne, on peut comparer son hash à ce qu'il y a dans la base de données et du coup empêcher sa mise en ligne. Donc, vraiment, ça ressemble beaucoup au Content ID de YouTube.
On précise que jusqu'un hash, c'est une empreinte en fait.
Ouais, voilà, une empreinte d'une image et qui pèse rien et qui est facile à générer et à comparer. Donc techniquement, c'est assez simple leur histoire. C'est juste que c'est impressionnant parce que c'est 4 quand même très grosses plateformes qui font ça. Et la commission est ravie de ça. Et puis là, il y a encore 6 mois, ils disaient on a 80 000 contenus qui sont comme ça listés. Non, en fait, ce qui est une liste noire, une liste de blocage privée sur lesquelles les juges n'ont aucun droit. Et ça, Martin, tu l'avais bien relevé. Et en fait, quand on regarde les documents internes de Facebook notamment, Facebook dit que c'est très important que les États n'aient pas de regard sur cette liste de blocage.
Ouais, non, en fait, donc il y a un droit de... Bref, il y a eu des documents qui sont un peu fuités sur Internet, sur les réunions entre la Commission européenne et Facebook, notamment, surtout. C'est assez intéressant à lire, c'est un article de Politico. Et en gros, dedans, on voit déjà que Facebook voit la Commission très, très souvent. Et en gros, qu'elle promeut vraiment son outil de modération, en disant, en fait, ça marche trop bien. Et elle parle bien d'une boîte noire, c'est-à-dire en disant, justement, on est hyper clean, les États ne peuvent pas venir faire de censure politique. Donc en fait, il y a juste nous qui pouvons le faire, et c'est notre boîte noire de modération. Donc personne ne voit en fait ce qu'on modère et ce qu'on modère même préalablement, avant qu'on poste un contenu même. Et ça, c'était assez intéressant. Ouais.
Donc du coup, on arrive en 2018, un peu pour le terme de l'expérimentation. Donc les 4 entreprises sont là, la commission est là. Il faut un communiqué de presse tous ensemble, avec des citations de chacun, comme si c'était la grande même entreprise ou institution. Ils disent, c'est génial, notre travail pendant 3 ans, il a porté ses fruits, ça marche. Maintenant, le seul problème, c'est que tout le reste, toutes les autres plateformes du web n'utilisent pas nos outils. Et ça, il va falloir régler ça. Manifestement, on comprend qu'ils sont déjà allés voir quelques plateformes moyennes comme Pasteit ou d'autres plus petits acteurs qui ont dit nous on veut pas du tout implémenter votre boîte noire là, nous on continue à faire la modération chez nous. Et apparemment ils ont tous fait la gueule, que ce soit la commission ou les géants, qui ont dit mais non, en fait il faut les forcer à utiliser notre liste noire et nos outils de modération. là, la commission, sans souci, sur demande en plus des ministères de l'Intérieur français et allemand, donc c'était Gérard Collomb à l'époque qui envoie une lettre qui a fuité aussi, dans laquelle il dit ça, il dit qu'il faut que les petits et moyens acteurs utilisent les outils de censure développés par les géants. Et en fait, en pratique, ça veut dire quoi? En pratique, ça veut dire que si ce règlement s'applique tel qu'il est proposé actuellement, demain, que ce soit Wikipédia ou le site d'hébergement de photos dont on parlait, Flark.
Flickr, je suis désolé, je
ne vais pas sur Flickr. Et bien, tous, en tout cas, devront, en tout cas dans l'idéal de la Commission européenne et de ses entreprises, mais dès qu'on mettra une image en ligne ou une vidéo en ligne sur Flickr, Dailymotion ou Wikipédia, bien, l'image passera par le filtre à comparer à la liste noire des quatre grosses entreprises qui font ça toutes seules dans leur coin. Et si ces entreprises ont décidé que ce contenu est illégal, parce que terroriste ou parce que, pour d'autres raisons, bientôt, on va le voir, ce contenu ne sera pas mis en ligne sur leur plateforme. Et si ces plateformes refusent de se soumettre à ça, à cette logique-là, elles seront exposées à des sanctions économiques.
Alors, on va voir les détails après une pause musicale pour permettre de souffler un peu et de digérer ces informations. Donc, nous allons écouter Family Blues par Damned and Dirty.
Cause commune, cause-commune.fr.
Vous êtes de retour dans l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur le site causecommune.fm partout dans le monde. Nous venons d'écouter donc Family Blues par Damned and Dirty. C'est en licence Creative Commons partage à l'identique, donc vous pouvez le partager avec qui vous semble. Et les références sont sur le site de l'April. Donc nous allons poursuivre le sujet donc du projet de règlement terroriste censure sécuritaire, toujours avec donc Martin Drago et Arthur Messot de la Quadrature du Net. Et mon collègue Étienne Gonu, donc de l'April. Étienne, je te repasse la parole.
Merci Fred. Je pense qu'on a déjà fait un bon tour aussi du contexte, notamment du contexte de la lutte anti, enfin voilà, de la politique antiterroriste et de ce règlement. Je pense que ça va être intéressant aussi de rentrer un peu plus dans les détails qui nous intéressent. Et notamment, bon, pour ceux qui suivent à nouveau l'April, vous savez qu'on est très engagé sur, contre l'article 13 de la directive droit d'auteur. Et comme je disais, moi, je vois beaucoup de similitudes en fait, entre ces deux dossiers. D'une part, parce que les deux sont très marquants d'une volonté de mettre, faire porter une responsabilité de plus en plus grande sur les intermédiaires techniques, sur les contenus que leurs utilisateurs et utilisatrices vont mettre en ligne. Et puis de les faire police un peu et juge sur leur propre territoire numérique. Donc quand c'est des géants, c'est une chose, mais on voit bien que du coup, ça a tendance à pousser à la centralisation. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Et d'autre part, on voit vraiment une volonté, une velléité d'exercer un contrôle de plus en plus serré, même automatisé des flux d'informations, quels qu'ils soient. Et donc là aussi, de contrôler la manière dont on va produire de l'information, dont on va échanger de l'information, du savoir, etc. Et à base, malheureusement, de filtres automatisés. Ça, c'est un peu... le terme émerge de partout, directive droit d'auteur, terroriste... contenu terroriste, les propos haineux en ligne, et c'est un peu voilà, ce qu'on qualifie souvent de solutionnisme un peu technologique. En gros, on va sursimplifier une question qui est de base extrêmement complexe politiquement, présenter un outil, finalement, c'est qui ne marche pas, un outil idiot comme une solution miracle, et au passage, on annihile tout débat de fond sur comment finalement penser Internet politiquement, collectivement, et notamment quand tu évoquais la question finalement des fermaclics, donc des personnes qui passent leur journée à regarder des contenus, alors que ce soit terroristes, pédopornographiques, etc., des contenus horribles, ça fait partie aussi donc, d'une part de la problématique de la centralisation, mais c'est aussi une des considérations politiques extrêmement importantes de comment fonctionne Internet. Donc on nous parle, on entend souvent parler, qu'est-ce qui est acceptable dans un état de droit. Voilà, moi je pense que si on réfléchit à un point de vue universaliste, à mon sens, ça l'est assez peu. Et donc voilà, donc, je pense qu'il serait là du coup intéressant de voir comment ce texte envisage ce filtrage. Alors, parlait d'un délai d'une heure, donc ce serait la police administrative du coup qui va regarder comment ça, imposer un truc. Je crois qu'ils peuvent imposer au bout d'un moment le filtrage automatisé. Est-ce que vous pouvez peut-être nous détailler un peu
alors plus en gros, c'est vraiment les deux points principaux du texte, enfin nous en tout cas, qui nous inquiètent le plus. Donc on le disait, il y a un article où effectivement la police peut imposer donc le retrait en une heure d'un contenu avec des sanctions financières très importantes derrière. Mais il y a un autre article effectivement où en fait la police... Et ça, c'est assez nouveau quand même, où la police peut imposer, on va dire, des mesures proactives, dont le filtrage automatique. Et ça, c'est dans le texte, c'est écrit. La police peut imposer le filtrage automatique. Il est toujours, ça a été adopté, donc c'est proposé par la Commission, adopté comme ça par le Conseil.
Et c'est Conseil, juste, c'est les États membres réunis.
Et c'est juste au moment du Parlement où là, les gens ont commencé à se dire « Ah, mais peut-être qu'effectivement, le filtrage automatique, est-ce que c'est dangereux, etc. ?» Il faut voir le temps de réaction qu'il y a eu. Mais donc, effectivement, ouais, comme dans l'article 13, on retrouve cette idée de filtre automatique liée à ce qu'avait dit Arthur avant la pause, parce qu'en fait, c'est des outils qui ont été développés par les grands groupes, Google, etc. Alors, après, nous, c'est un débat au sein de la Quadrature. Il y a une idée aussi de ces outils, de un peu de marché de ces nouveaux outils et de marché du filtre automatique, quoi. Et ça, c'est intéressant de voir qu'en fait, Facebook, Google et tout ça, commence à développer un peu cette idée du marché. Alors, soit en vendant ces filtres automatiques, pourquoi ? Parce qu'en fait, les acteurs n'ont pas le choix, soit parce que la police les a imposés, soit parce qu'en fait, vous avez trop peur d'avoir une sanction financière et de ne pas pouvoir retirer en une heure si on vous appelle, la police vous appelle le week-end, par exemple. Et donc, vous le mettez en place en disant, au moins, je n'aurai pas de problème avec la police vu que j'ai un filtre automatique. Et ce qui est intéressant, c'est donc, soit Google vous donne, Facebook vous donne ce filtre automatique, en le vendant, ou vous le donne gratuitement, mais en fait, derrière, récupère les données qui vont pouvoir être... qu'elle va pouvoir récupérer sur ces outils.
Les utilisateurs.
Des utilisateurs, oui.
Et sur le point, on a trouvé assez intéressant, donc sur la directive droit d'auteur, on a appris qu'il y avait une sorte de lobbying qu'on n'avait pas vu. Donc il y a bien sûr le lobby de l'industrie culturelle, le lobby de Google, etc. Et Audible Music, qui est un des plus gros filtres de contenus musicaux, en fait, a beaucoup lobbyé pour l'article 13, parce que pour eux, c'est un marché assez formidable. D'ailleurs, je pense qu'on pourra le remettre en ligne. On avait Pierre Bessa, qui était intervenu dans l'émission, a fait un très bon billet de blog où il explique plus techniquement comment fonctionnent ces filtres. Je pense que et qui ont les mêmes implications, les mêmes problématiques que dans le dossier qui nous
intéresse. C'est les mêmes personnes qui les ont fait, en fait, hein, qui les ont inventés. Enfin, si on pense à Content ID, en tout cas, qui est genre le plus gros filtre, c'est YouTube et Google qui l'ont fait. Les mêmes personnes qui, manifestement, sont à l'idée du filtre dans le règlement terroriste. Donc, c'est les mêmes acteurs qui font, donc évidemment que ça sera pertinent. Ouais.
Et d'ailleurs, ça arrive vachement à ce que tu dis, parce que la semaine dernière, nous, on a pas mal de députés qui nous ont dit « Ah, c'est marrant, on a beaucoup de lobbies, justement d'entreprises de filtres automatiques qui cherchent justement à faire passer ce règlement pour mieux vendre leurs outils derrière.
Alors après, il y a quand même des différences intéressantes avec la lutte contre la directive copyright. Dans la directive copyright, bon, YouTube joue un jeu trouble, parce qu'il joue toujours un jeu trouble. Aujourd'hui, il se prétend opposé à la directive, alors qu'il a un peu attendu que les débats au Parlement européen aient bien avancé pour avoir une position aussi explicite qu'aujourd'hui. Reste que de façon économique très simple, YouTube a quand même bien intérêt à ce que l'article 13 soit rejeté ou sacrément affaibli. Alors que dans le règlement Théo, c'est beaucoup plus compliqué, parce que le règlement terroriste, a priori, il n'a pas vocation à s'appliquer à YouTube. Alors, il s'appliquera à YouTube, mais YouTube respecte déjà le règlement, en fait. Vu que le règlement était calqué sur la pratique de Facebook et YouTube, et Google en général. Donc, eux, ils n'ont pas d'intérêt stratégique à s'y opposer. Alors, après, ils font du petit lobby où ils disent « Bon, quand même, ce règlement, ça nous fait chier, ça nous pose des obligations. » Mais après tout, c'est des obligations qu'on respecte déjà, donc bon, c'est pas très grave. Mais, en fait, le règlement les renforcera. Donc, pour la raison qu'a dit Martin, parce que d'abord, c'est les seuls à savoir faire ce que le règlement exige. Du coup, bah, toutes les plateformes vont se tourner vers eux pour savoir comment faire. Et aussi parce qu'au passage, ce règlement, il a des bonnes chances de dissuader ou de détruire pas mal de petits concurrents ou de modèles alternatifs qu'à l'April, comme à la Quadrature du Net, on défend et qu'on espère être l'avenir du web. Donc des modèles alternatifs plutôt non commerciaux, plutôt décentralisés et en tout cas pas capables de répondre à la police en une heure. Donc dans tous les cas, YouTube en sort fortement gagnant si ce texte était adopté, à la différence de la directive copyright où YouTube aurait plutôt intérêt à ce qu'à mon avis elle soit pas adoptée, même si dans les deux cas il s'en sort très bien. Donc c'est intéressant de voir que l'alliance gouvernement-GAFAM change en fonction du sujet. Et aussi parce que là, il faut dire que contrairement à la directive copyright, sur le règlement Théo, le jeu est assez clair. C'est entre l'État sécuritaire et la population attachée aux libertés. Alors que dans copyright, on a un troisième acteur qui est une industrie vieillissante et un peu perchée depuis au moins 10 ans, ou qui rend le débat encore plus loufoque. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir que voilà, l'industrie culturelle. En mettant côte à côte ces débats, on voit quand même que les rapports entre l'État et les GAFAM sont encore très complexes. Il y a énormément d'alliances, hein, et d'intérêts partagés. Mais on a aussi des choses parfois qui ressemblent à la confrontation.
Et alors, ce que je trouve, ce qu'on observe quand même, et vous avez mis un peu le doigt dessus, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question, okay, donc ce texte arrive, propose des choses, mais comment est-ce que ça fonctionne jusque-là? On voit notamment ça fonctionne à travers une exploitation assez sévère, mais ça fonctionne sur les principales plateformes. Et dans les deux cas, c'est aussi le cas pour le droit d'auteur. Ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a aussi un des impacts principaux, c'est que ça va renforcer la centralisation de tout système autour de quelques points, plateformes clés. Et si on réfléchit en termes de contrôle, c'est beaucoup plus facile de contrôler un point nodal unique. Et en fait, on peut se demander, alors vous parlez moins de ces alliances, je pense que dans les deux cas, en fait, c'est aussi de renforcer peut-être ces dynamiques-là. Alors quand on commence à réfléchir plus politiquement ces systèmes-là, on observe que la réponse est beaucoup plus dans la décentralisation, dans le fait d'étaler, déjà de limiter la masse à contrôler, à filtrer, etc.
Je pense qu'il y a un problème qu'on rencontre, qui était flagrant la semaine dernière. Dès qu'on parle de décentralisation ou de modèles alternatifs, que ce soit aux parlementaires ou aux ministères, ils ne savent pas de quoi on parle, en fait. Mastodon, il y a très peu de gens qui savent que ça existe, malheureusement. Et en fait, quand on leur en parle, ils acceptent l'existence, mais ils pensent que c'est des petits GAFAM. Ils pensent que c'est Facebook ou Twitter en plus petit. L'idée... Pourtant, à la base d'Internet, de décentralisation, ça veut dire quoi d'être plusieurs acteurs où ensemble, collectivement, on gère la même instance, mais en partageant le pouvoir? Ça, c'est des choses qui ne rentrent pas du tout dans leur mentalité. Et ils ne voient pas l'intérêt de défendre un modèle qu'ils n'arrivent pas, eux, dans leur culture politique, à imaginer. Et ça, c'est extrêmement dur. Alors, évidemment, d'avoir juste 4 ou 5 acteurs qui contrôlent le web, ça arrange tout le monde. Les personnes qui ont une philosophie sécuritaire, ça les arrange beaucoup. Mais ils ne sont même pas capables de voir ce qu'ils détruisent en faisant ça. Et ça, c'est inquiétant. Et ça veut pas dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la population qui voient très bien ce que ça veut dire la décentralisation. Mais en tout cas, les politiques, eux, simplement parce que le rapport à l'État étant extrêmement centralisé, ils sont enfermés dans une vision du monde où quand on leur dit, en fait, Mastodon, on est des milliers et des milliers à héberger des millions de comptes de personnes, juste ça ne fait écho à rien du tout. Pour eux, ils se disent, ils sont en train de raconter n'importe quoi, ils délirent complètement. Soit il y a Twitter, soit il y a Facebook, soit il y a limite un petit Facebook qui demain sera le grand Facebook et qui, dans le meilleur des cas, est français.
Ce qu'il faut voir aussi, hein, moi, c'est cette idée d'alliance, je trouve ça assez intéressant. On peut faire un point de contexte en France en ce moment, et d'ailleurs ça a été déposé lundi, je crois, au Parlement français. C'est une proposition de loi, alors cette fois-ci pas sur les contenus terroristes, mais sur les contenus haineux. Donc on parlait de problème de définition, là on la retrouve encore plus fort. Et on va retrouver en fait un peu les mêmes idées que le texte sur le contenu terroriste, c'est-à-dire des obligations de retrait de contenu extrêmement rapide. Alors là, je crois que c'est 24 heures ce qui a été proposé. Et la promotion, encore une fois, de filtres automatiques. On a Majoubi, quand il présente ce texte...
Mounir Majoubi,
le secrétaire d'État au numérique, qui dit « Ah, mais c'est trop bien !» Et là, c'est assez incroyable à lire. Dans le texte, il dit « Facebook a développé des outils de filtres automatiques, c'est génial, il faut que tout le monde l'utilise pour retirer, justement, et pour qu'il y ait le moins possible de contenu haineux en ligne. » Et là, en fait, on retrouve exactement la même chose que nous, on voit sur le contenu terroriste, c'est l'alliance entre les États et les grandes plateformes, à tel point que là... pour ce texte sur les retraits des contenus haineux, on a un truc au gouvernement qui s'appelle la mission Facebook, et c'est pas une blague, ils l'ont vraiment appelé comme ça, où en fait, bah, alors c'est là où c'est intéressant, est-ce que c'est Facebook qui a dicté sa loi ou est-ce que ça a été une alliance entre le gouvernement et Facebook parce qu'ils sont bien contraints d'avoir une plateforme centralisée ? N'empêche qu'on retrouve exactement la même logique, on retrouve la même alliance et on débouche en fait sur les mêmes idées. Censure extrêmement rapide et promotion des filtres automatiques de Facebook en l'espèce.
Alors, là, tu parles de la position du gouvernement, mais si on va voir du côté de ce que dit Mark Zuckerberg, c'est assez intéressant. Donc, cette mission Facebook, c'est quelques agents de différents ministères français qui, pendant 6 mois, font des réunions avec Facebook, vont dans leur centre de modération pour voir comment ça se passe, pour un peu voir comment le meilleur acteur de la modération sur Internet se débrouille et s'en inspirait. Donc ça, là je moque un peu la vision de Macron. Mais si on regarde sur le blog de Zuckerberg, qui il y a 4 mois parlait de cette mission, il dit « En ce moment, la France est extrêmement sage et collabore avec nous pour écrire la loi. » Zuckerberg, il considère qu'il écrit la loi avec le gouvernement français.
Et c'est révélateur, ouais.
Comment ?
Non, c'est révélateur.
Ouais, il est super fier. Il est super fier. Et il dit « C'est ça la bonne loi. La bonne loi, c'est pas l'autorégulation, c'est pas imposer la loi aux gens, c'est... les entreprises privées, les 4 ou 5 monopoles mondiaux qui écrivent la loi avec les gouvernements. Et ça, c'est encore mieux que l'autorégulation. Ouais, je me moque. Ouais. Hein.
Non, mais quelque part, aussi, Facebook impose, créer sa propre loi sur son territoire qu'est Facebook. Hein. Code ISLO, on répète souvent, mais le code fait la loi. Ça se voit beaucoup. Je pense qu'on peut. Alors, il n'y a pas énormément de choses à rappeler là-dessus, si ce n'est comme dans la directive droit d'auteur, il y a de vagues rappels, le respect des libertés fondamentales, mais qui sont creuses et que le texte s'invalide par lui-même. Alors, une question qui est importante, si là, les gens nous écoutent, ok, bon, là, on fait un sombre constat, comment se mobiliser ? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Donc, le 21 mars, il y a donc un vote en commission Libé, donc là sera la suite, je pense qu'on
commission
peut le rappeler.
Et
qu'est-ce que, voilà, commission des libertés civiles, et comment, en tant que citoyen et citoyenne, on peut se mobiliser contre ce texte ?
Alors, le comment se mobiliser, c'est il faut appeler les députés. À la Quadrature, on a créé une page sur notre site, quadrature.net/.
Ben en fait, donc vous allez juste sur la quadrature.net, c'est la première.
Tous les liens sont sur la page avec toutes les références pour la retrouver.
Sur le site.
Et en fait, là-dessus, vous trouverez une plateforme où il y a donc tous les députés concernés qui vont voter sur ce texte. Il y a leur numéro de téléphone, il y a leur mail, il y a leur Twitter. Et il ne faut pas hésiter à les appeler. On a donné sur le site et sur la page avec les liens toute une analyse pour justement bien comprendre le texte, bien comprendre les conséquences, fournir des arguments si c'est parce que ça peut
traduire
être utile,
en français, anglais.
Et du coup, voilà, en fait, le principal, c'est vraiment, il ne faut pas hésiter, il faut les appeler, leur faire comprendre les dangers du texte et leur demander, en fait, de voter contre ce texte.
Ou au mieux, de ne pas se précipiter. Comme on disait tout à l'heure, un désespoir qu'on peut avoir, c'est que les députés retrouvent la raison et se disent, en 10 jours, on ne peut pas traiter un sujet comme ça, on reporte à plus tard. Ce qui est aussi une façon de... Alors, mettons la pression qu'on peut obtenir. Alors, concrètement, demain, ça sera le 13 mars, donc s'il y a des rediffs, désolé. On sera dès midi au CICP à Paris, donc c'est rue Voltaire à côté du métro...
Rue des Boulets.
Donc dès midi, on va essayer de faire une après-midi d'appel aux députés à plusieurs, parce que c'est quand même plus marrant. Et aussi, vendredi 15 mars, on aura notre apéro mensuel, donc à la Quadrature du Net dans nos locaux. C'est au 60 rue des Ortos, vers le métro Maraîcher sur la 9. Donc là, vous pouvez venir aussi, on fera un point, et on préparera, je pense aussi, une session d'appel aux députés pour la semaine prochaine. Il reste une dizaine de jours pour les appeler. Nous, quand on les voit, ils râlent que les gens appellent trop. Donc, c'est bon signe, ça veut dire que ça commence à être utile. Et voilà, continuons. On voit quelques députés commencer un peu à réaliser qu'ils sont un peu en train de faire n'importe quoi. Donc, pareil, c'est le signe que il nous reste 10 jours et qu'il faut terminer ça bien et fort.
Je pense que aussi c'est vrai que pour ça peut être difficile d'appeler un député parce que bon, il y a toujours la parole qui est jamais facile. Faut pas hésiter à utiliser les autres outils, envoyer des mails aussi, ça marche. Même nous, on envoie des mails et ils nous répondent, donc ils voient. Donc il y a plein d'autres façons aussi. Même Twitter aussi, ouais.
Parce qu'ils sont pas sur Mastodon, désolé.
Souvent, faut voir que en ce moment, la plupart veulent être réélus et donc les interpeller sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, ça marche pas mal aussi parce qu'en fait, eux, ils se sentent un peu obligés de répondre, quoi.
Alors, une bonne stratégie, c'est aussi d'en commencer par un courriel et d'appeler. Est-ce que c'est dur? C'est d'introduire. Moi, je déteste appeler, mais bon. Après, on se rentre au jeu. Plus on en appelle, plus on rentre dans le jeu. Est-ce que vous avez bien reçu? Qu'est-ce que vous en pensez? Et il faut aussi voir qu'on n'est pas, logiquement, tout le monde n'est pas expert de ces sujets, surtout qui sont complexes. Ce qui importe, c'est de montrer, tu le disais, hein, de montrer qu'il y a un rapport de force, qu'il y a des gens que ça interpelle, que des gens qui se mobilisent. Si les arguments ne sont pas parfaits, ce n'est pas grave, ils ont déjà été entendus. Et la démarche, parce que les gens savent que quand une personne qui va faire la démarche d'appeler, ça a du poids, ça a de la valeur pour la personne qui le reçoit. Donc il faut aussi juste un simple appel, même si les arguments ne sont pas parfaits, à participer, à créer un rapport de force,
même si c'est
vachement important.
Même si c'est 20 secondes, ils ne sont tellement pas habitués, ou même si les assistants en général qu'on a, que ce n'est pas directement les députés, ils ne sont tellement pas habitués à avoir des gens qui leur parlent d'un sujet qui, en fait, souvent on connaît mieux qu'eux. Souvent, quelqu'un qui, jusqu'à écouter l'émission là, ici, va mieux connaître le sujet que certains membres de la commission Libé. Donc, même si on baragouine un peu quelques mots en anglais, ils seront tellement surpris que ça a un effet. Et après, ils commencent à douter, ils commencent ils commencent à traîner des pieds pour aller en réunion. Et ça, c'est bon. Ça, politiquement, ça permet aux députés les plus protecteurs de la liberté d'avancer, etc.
Donc là, on a jusqu'au 21 mars pour faire le vote. On peut préciser que le droit d'auteur, c'est sera le 26 ou 27 le vote.
Exactement.
N'hésitez pas à parler des deux en même temps parce qu'il y a problématiques similaires. C'est compliqué, mais ça montre de la même manière qu'il y a une mobilisation qui est faite. Et de faire du lien, justement, je pense, sur la problématique aussi du filtrage parce qu'elle est centrale aux deux. Ça peut renforcer aussi mutuellement. Ouais. Mais si vous voulez appeler juste, faites la démarche, essayez. Et moi je trouve qu'on rentre assez rapidement dans le jeu et on a une satisfaction de se dire j'agis pour quelque chose qui est assez important. Et on se fait des listes, on peut se retrouver aussi entre amis. On peut se motiver aussi les uns les autres. Et je pense que c'est bien. Ouais. Donc vendredi 15, un apéro, c'est aussi une manière de se mobiliser ensemble.
Et puis demain, au CICP, demain 13.
La Chambre commerce et industrie de mémoire, je pense que c'est plus facile à rechercher. De toute façon, on mettra le lien également en référence. Non, CICP, peut-être que j'aurais dû vérifier avant.
De quoi ?
Ah bon. CICP, c'est Chambre commerce et industrie, je crois.
Non, pas du tout.
C'est
Centre international des contre-cultures populaires.
Oui, complètement.
Pas des cultures populaires, plutôt.
Non,
pas du tout. C'est un lieu qui accueille des luttes libertés fondamentales et syndicales depuis de très, très, très longtemps.
Je rajouterais juste un truc, c'est que...
Oui, pour conclure.
Même les députés, en fait, quand on les appelle, souvent, en fait, ils ne connaissent pas le texte. Donc il y a même pas, si ça se trouve, il y a des moments où en fait il y a même pas à y avoir d'arguments ou de débats. Enfin nous, ça m'est déjà arrivé du coup dans des appels d'avoir un assistant en fait qui ne connaît pas le texte et juste ça, au moins ça va après avoir accroché, au moins il va regarder le texte, s'intéresser et avec un peu de chance tomber sur nos positions. Donc même ça peut servir.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'April.
Merci à la Quadrature, donc Arthur Messot et puis Martin Drago. Donc vous allez sur le site de laquadrature.net et directement vous allez avoir toutes les informations pour agir sur ce sujet. Je rappelle donc c'est en commission des affaires des libertés civiles, donc c'est pas tous les parlementaires en plus,
c'est
un nombre restreint. Et au niveau français, il y a peut-être 10 ou
6.
6
ouais.
Ah bah alors voilà.
Mais il y en a des méchants, il y a genre Rachid Dati et Brice Hortefeux qui font pas mal de bruit et qui sont assez efficaces pour nous.
Qui sont les plus derrière.
Pas hésiter à les embêter, du coup.
Oui.
Donc, ne pas hésiter, en tout cas, à les appeler. Donc, toutes les références sont sur le site de la Quadrature du Net, donc laquadrature.net. On va faire une pause musicale avant le dernier sujet. Et donc, on va écouter Microwave par Cud Eastbound.
Cause commune, cause-commune.fm. 93.1.
Flow like water on the tiny hairs of an African pilot. And when I have a child, she'll grow up so plain in the dirt and on pavement. And if the day ever calls where I lose my bones, giving into a habit, I'll bite my lip with a drip of red. I'll paint your perfect portrait, and it will be signed by my hand, scratched out by a man who envies the time spent to self-reflect on all the self-destruction, all the stupid stuff I do, just to try and understand my place is not ready made. Microwave safe. Well, I try and comprehend why I'm so fixed and bent on making the same mistakes. And well, slow as things may go, I still need you.
still need to know. I don't know nothing up, and nothing don't know me either. I'm just holding a 10 and hope I understand. Now understand, I can't see through your eyes, but I can try. But it won't make any difference, no. It makes no difference. Cause a day wastes like paper airplanes in the morning, falling wet cause it's been raining, it's pouring. Yeah, and you always get what you decided to take. And it's been taking me, taking me, taking me too long. And
Microwave par Cud Hisbun, donc c'est en licence Creative Commons partage à l'identique, et évidemment vous retrouvez les références sur le site de l'April. Donc nous allons passer maintenant au dernier sujet avec la présentation d'une initiative qui s'appelle Fun the Code, et donc avec normalement au téléphone avec nous Louis-David Benyayer. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Louis-David Benyayer, vous allez nous présenter donc une initiative qui va se dérouler la semaine prochaine, donc Fun the Code. Donc, première question, expliquez-nous ce qu'est cette initiative.
Eh bien, Fun the Code, ça a lieu le 19 mars, mardi prochain. Et c'est une soirée conviviale pour découvrir, fêter et financer le logiciel libre. Donc, c'est une soirée au cours de laquelle des projets qui se sont portés candidats vont se présenter au public. Et puis, nous, organisateurs, avons récolté un peu d'argent et l'audience qui sera présente répartira cet argent auprès des projets qui sont présentés. Et cette année, on a aussi Jean-Baptiste Kelp, qui est un contributeur historique de VLC, qui fera une speech d'intro, qui nous racontera un petit peu son parcours.
Donc, j'en profite pour rappeler que donc Jean-Baptiste Kempf est intervenu dans l'émission de radio il y a quelques mois pour parler notamment des DRM. Et VLC, c'est évidemment le fameux lecteur multimédia libre que beaucoup de gens utilisent, notamment sous Windows, parce qu'il libre de très nombreux médias, mais souvent ils ignorent que ce logiciel est un logiciel libre, et souvent ces personnes ignorent le mode de financement de VLC. Donc ça se passe donc le 19 mars donc à Paris à partir de 19h au Liberté Living Lab, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, 9 rue d'Alexandrie, dans le deuxième, dans le sentier.
D'accord. Alors, à quel type de public s'adresse cette initiative ? Qui peut venir ? Qui peut être intéressé à venir donc le 19 mars à cette soirée Fun the Code ?
Alors, c'est un événement qui est ouvert à tout le monde, hein, qui est ouvert à tous les curieux qui veulent découvrir le logiciel libre. On s'est un peu appuyé sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire... Le logiciel libre, on l'utilise tous quotidiennement par l'utilisation d'Internet et de notre téléphone portable. Et on ne sait pas toujours que c'est du logiciel libre. Donc, tous ceux qui ont envie de découvrir ces projets, les gens qui les portent surtout, ça c'est évidemment les gens qu'on souhaite attirer le plus. Également tous les porteurs de projets dans le libre et l'open source qui veulent en profiter pour rencontrer des utilisateurs, voire des contributeurs. Mais c'est véritablement un événement qui est ouvert bien au-delà des développeurs libres et open source qui portent des projets.
D'accord. Donc c'est important de préciser, si je comprends bien, que le but de la soirée, c'est pas uniquement la partie financement, donc par rapport aux sponsors qui ont donné de l'argent, donc de répartir en fait par rapport aux différents projets, mais c'est aussi un appel à contribution. Des personnes qui ont envie, par exemple, d'aider soit en développement, soit en documentation, soit en autre chose par rapport à un projet libre, cette personne peut venir à cette soirée et trouvera de quoi satisfaire ses envies.
Exactement, exactement. On le fait en fait pour être une soirée qui permet de mettre en contact des gens qui développent des projets, qui ont sûrement besoin d'être soutenus par d'autres efforts, et puis des gens qui sont des curieux, intéressés, qui veulent comprendre, et puis des gens qui veulent s'engager un peu plus en contribuant à des projets. Et parfois, on n'a pas toujours autour de soi des projets qui nous mobilisent. Et bien là, c'est l'occasion de découvrir, ce soir-là, il y aura une quinzaine de projets qui se présenteront, et ce sera peut-être l'occasion pour certains de contribuer à l'un ou à l'autre.
D'accord. Alors, quel type de projets vont être présentés ? Est-ce qu'il y a c'est des projets plus... Enfin, dans quel domaine d'activité ?
Alors, Femmes de Côte, c'est la quatrième édition qu'on organise. On a commencé en 2013. L'événement s'appelait précédemment Acadon. On sollicite des projets qui sont bien sûr issus du logiciel, mais également qui peuvent aller dans des démarches contributives sur la connaissance, comme alors même si ce n'est pas un projet qui s'est porté au candidat, mais comme Wikipédia, on a eu comme projet, par exemple, les années précédentes OpenStreetMap ou Open Food Facts, qui ne sont pas exclusivement du logiciel, mais des activités contributives. Cette année, on a une dizaine de projets, et on en a 10 projets, pardon, qui sont sélectionnés, et qui sont principalement dans le logiciel ou des plateformes. Alors, on a des projets qui sont plutôt connus, comme Adaway, qui est un bloqueur de publicité, ou comme Kiwix, et puis on a des projets très émergents. C'est un projet qui apporte des contenus Internet aux gens qui n'ont pas accès à Internet. C'est
une solution
qui permet d'avoir accès à des contenus. Et puis, on a des projets qui ont une notoriété en devenir. Sugarizer, qui est une plateforme pédagogique libre pour les 6-12 ans. Ou bien Petition, qui est un logiciel d'auto-hébergement de pétitions en ligne. Donc, on est sur des projets qui sont soit déjà un petit peu avancés, et qui peuvent témoigner d'un progrès, soit des projets qui sont en train d'émerger et sur lesquels on a, nous, l'envie et le souhait de leur donner un coup de projecteur.
D'accord. Et parmi les sponsors, donc, quel type de structure, on peut même citer des noms, hein, soutiennent cette quatrième édition ?
Alors, on a des sponsors aujourd'hui. Enfin, cette année, on en a 5. Donc on a Kizio Digital qui est une solution open source dans la mobilité. X Kiwi qui est sur une solution de contenu. X Wiki, pardon. j'ai bloqué. BlueMind de messagerie. Et puis on a aussi un organisateur de conférences qui s'appelle API Days. Et puis la Société Générale. Donc on a entre BlueMind, XWiki, la Société Générale, il y a un monde en termes de taille, hein. Mais vous voyez qu'il y a une diversité en tout cas à la fois en termes de taille et puis en termes de projet. Je pense que ce qui les unit dans leur motivation à soutenir l'événement, c'est qu'ils sont tous utilisateurs ou producteurs ou les deux de logiciels libres et qu'ils ont conscience qu'il faut à certains moments soutenir des projets qui émergent et dont ils ont envie de contribuer à cet événement qui s'est donné cette mission.
Oui, parce que comme c'est marqué sur le site, donc qu'on n'a pas encore cité, mais que je vais citer, donc foundthecode.org, c'est marqué la phrase d'accroche, c'est les logiciels libres ne poussent pas dans les arbres, donc il faut évidemment les soutenir. D'un point de vue pratique, donc est-ce que les personnes qui sont intéressées doivent s'inscrire ? Est-ce que l'accès payant, est-ce qu'il y a un programme prédéfini ? Ça commence à 19h, est-ce que ça se finit ? Il y a une horaire de fin ? Comment ça se passe en pratique ?
Alors pour venir, c'est très simple, il suffit de s'inscrire sur le site, hein, femmesdecode.org. Il n'y a aucune exigence à part celle de donner son nom pour qu'on puisse savoir un petit peu combien de personnes risquent de venir. Il n'y a absolument pas de contribution financière exigée, il n'y a aucune contrainte particulière, tout le monde peut venir. Et ensuite, la soirée commence à 19h, on a donc Jean-Baptiste Kempf qui fera l'introduction. Ensuite, on a 10 projets qui vont se présenter, ils auront chacun entre 5 et 10 minutes pour se présenter, donc ça va durer
petite heure.
Une heure et demie et deux heures.
Deux heures, oui.
Oui, puisqu'on va probablement faire une petite pause au milieu.
D'accord.
Et puis ensuite, on a ouvert la porte aussi aux projets qui ont candidaté mais qu'on n'a pas retenu. On a eu plus de 20 candidatures et on a seulement 10 qui se présenteront pour récolter des gains. Eh bien, on leur laissera aussi du temps pour se présenter brièvement. Donc tout ça devrait nous amener autour de 22 heures. Et on continuera avec celles et ceux qui souhaitent prolonger les discussions jusqu'à une heure plus tardive.
D'accord. Ou une heure tôt le matin. Non, je ne sais pas. Alors là, on a parlé donc de l'initiative et de la soirée. Donc, on va le rappeler une nouvelle fois. Donc, le 19 mars au Living Lab, 9 rue d'Alexandrie, donc dans le 2e arrondissement à Paris. Donc, c'est organisé par Found the Code. Alors, le Found the Code, c'est une organisation, c'est une association. Qui porte ce projet-là, en fait ?
C'est, y a pas de structure juridique, c'est principalement des individus. Donc cette année, on est trois à l'organiser. Bastien Guéry, développeur, qui est l'initiateur de ce projet, qui a co-organisé la totalité des quatre éditions. Et puis Rudy Cambier du Liberté Living Lab. Donc cette année, nous sommes les trois individus qui organisons cet événement. Et donc on est totalement bénévole sur l'organisation de cet événement. Et il n'y a pas de structure qui porte de façon significative cet événement-là.
D'accord, donc c'est des énergies bénévoles. Donc là, on parle d'un événement qui a lieu à Paris, mais on peut se poser la question, est-ce que des événements sont prévus ailleurs ? Si des structures ou des personnes souhaitent organiser un événement Found the Code ailleurs que Paris, est-ce qu'elles doivent vous contacter ? Comment ça se passe ? Comment des personnes peuvent rejoindre l'initiative ?
Alors, c'est tout à fait ce qu'on souhaite, hein, c'est-à-dire qu'il y ait des soirées similaires qui aient lieu à d'autres endroits. Lors de l'édition 2015, il y avait déjà eu un Found the Code à Orléans. Et donc, c'est tout à fait possible. La marque n'est pas du tout protégée. Il n'y a pas du tout de licence particulière pour le faire. Sur le site sont présents un certain nombre de ressources qui devraient permettre d'y parvenir seul. Et ensuite, nous, on est tout à fait disposés à recevoir ces propositions pour les soutenir et les aider le plus possible en leur transférant notre expérience, les outils qu'on a utilisés et nos méthodes. Et puis aussi, on souhaite que le site Found the Code soit un peu la pierre angulaire numérique des événements qui ont lieu. Donc très concrètement, si vous avez envie d'en organiser un, vous rendez sur le site, vous consultez ce qu'il y a déjà disponible, et si vous avez besoin qu'on vous aide, eh bien vous nous écrivez et on le fera.
Eh ben, je crois que c'est parfait. Je vais rappeler donc la date, donc mardi 19 mars de 19h à plus tard dans la soirée, donc au Liberté Living Lab, donc 9 rue d'Alexandrie, donc dans le 2e arrondissement de Paris. Donc le site c'est foundthecode.org, la référence est aussi sur le site de l'April. Louis-David, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Non, mais écoutez, je crois que notre événement fait un peu écho aux discussions que j'ai pu suivre précédentes, hein, puisqu'il y a un lien quand même entre l'open source et les logiciels et les questions de liberté individuelle. Et donc, évidemment, soutenir les logiciels libres et open source, dans une certaine mesure, c'est aussi contribuer à un monde plus équilibré entre l'individu et les institutions.
Bah, c'est une belle conclusion. Donc c'était Louis-David Benyayer, donc de l'initiative Found the Code, donc qui se déroule le 19 mars donc à Paris, donc foundthecode.org. Merci Louis-David et puis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée.
À très bientôt.
Alors nous approchons de la fin de l'émission. Un petit jingle, s'il vous plaît. Alors, quelques annonces, des annonces qui ne vont pas vous surprendre. Hein. La campagne contre l'article 13, mais aussi l'article 11 de la proposition de directive droit d'auteur se poursuit. Donc, vous avez plusieurs sites de référence. Donc, vous avez sur april.org, vous avez sur saveyourinternet.eu, vous avez pledge2019.eu, vous avez aussi la quadrature du net.net. Donc, j'en profite pour signaler que nous ferons un point sur la directive la semaine prochaine dans l'émission, donc avec Anne-Catherine Laurin, qui travaille pour le groupe des Verts au Parlement européen. Donc, nous ferons un petit point de 15-20 minutes pour savoir où ils en sont dans leur discussion. Nous en avons parlé longuement dans l'émission, et bien sûr, la campagne contre la proposition de règlement terroriste censure sécuritaire. Donc là, le site de référence, c'est laquadrature.net. Dans les autres annonces, nos camarades de Reflet.info, donc Reflet c'est un journal d'investigation en ligne et d'information hacking, va produire des documentaires d'investigation. Donc le site Reflet c'est Reflet.info, donc avec un S à Reflet, R-E-F-L-E-T-S. Donc ils se lancent dans la publication, dans la réalisation de documentaires. Donc le thème de leur premier documentaire, c'est marqué sur le site, reste confidentiel. Ce qu'ils peuvent dire simplement, c'est qu'il portera sur l'utilisation de l'argent public, sur des contrats publics importants, sur des sociétés privées qui ont obtenu des contrats juteux, des mélanges de genres pour des hommes politiques partis pour le privé. Bref, d'un truc qui, comme dirait l'autre, nous coûte un pognon de dingue. Donc je vous encourage, il y a donc un appel à soutien financier. De mémoire, je crois que la somme demandée est à peu près 20 000 euros pour la réalisation de ce documentaire, et c'est soutenu par pas mal d'organisations, donc reflet.info, reflet avec un S. Donc ça, c'est important à soutenir. Dans les actualités, sinon... Le Libre en Fait, proposé par l'April et organisé par les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, se poursuit. Je vous rappelle, c'est du 2 mars au 7 avril 2019. Donc le site, c'est libre-en-fait.net. On a parlé donc des événements de la Quadrature cette semaine. Bah, si jeudi, vous vous ennuyez, vous avez la soirée de contribution au Libre à la FPH dans le 11e, donc à Paris. Et évidemment, tous les autres événements, vous les retrouvez sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Alors, notre superbe générique a commencé. J'en profite donc pour remercier déjà Étienne Gonu qui a assuré la régie et l'animation du sujet sur la censure sécuritaire. Je remercie également Patrick Creusot, bénévole à l'April, qui a pris le relais pendant qu'Étienne était à la table ici. Je remercie nos autres invités, donc Jean-Christophe Becquet, président de l'April, Martin Drago et Arthur Messot de la Quadrature du Net, et Louis-David Benyayer de l'initiative FunzeCode. Donc vous retrouvez sur notre site web april.org une page avec toutes les références utiles qui va être mise à jour après l'émission, car nous avons cité quand même pas mal de références. Donc la prochaine émission aura lieu mardi prochain, mardi 26 mars 2019 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les outils multimédia libres pour l'image et la vidéo. Donc on parlera notamment de GIMP, de Cadence Live, de Blender et aussi de mode de fonctionnement de ces projets de financement. Nous vous souhaitons de passer une belle journée. On se retrouve mardi prochain et d'ici là, portez-vous bien.